If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actu tech, internet et gadgets. On résume ça de manière simple et intéressante et compréhensible. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va faire un épisode peut-être un petit peu bizarre. On va avancer tant bien que mal, on va essayer et j'ai pour m'accompagner dans cette aventure Marion et encore pas Jeff. Jeff est encore pas là, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais bonjour Marion, comment tu vas, comment tu te sens?
Écoute, bonjour Patrick, ravi de retrouver les auditeurs, ravi de te retrouver. Voilà, on va avoir des choses intéressantes dans ce climat particulier.
Ouais, exactement. C'est vrai qu'on parle du coronavirus depuis des semaines dans l'épisode. Et là, je crois que jeudi dernier, les choses se sont vraiment déclenchées dans toute l'Europe et dans tout le monde occidental qui commence à comprendre vraiment de quoi il s'agit. Et donc, les choses sont un petit peu un contexte particulier, mais on va quand même parler de tech. Je vais être parfaitement honnête avec vous, j'ai essayé de faire une émission sans virus, mais malheureusement, vraiment, c'est très très compliqué et puis ça tordrait l'émission tellement que ça n'aurait plus vraiment de sens. Par contre, ce que je vous promets, c'est que je vais vous faire des news intéressantes ou un petit peu intrigantes ou presque même amusantes sur ce qui se passe et les conséquences. Donc, au moins, j'espère que ça vous distraira un petit peu, même si c'est vrai que c'est le sujet du moment. On va aussi parler un petit peu, comme on a tous les deux pas mal d'expérience avec le télétravail, peut-être de quelques astuces pour bien télétravailler. Je pense qu'on les entend beaucoup les mêmes partout, c'est parce qu'elles sont justes, mais il y a beaucoup de demandes à ce propos et certains auditeurs m'ont demandé si moi qui fais ça depuis maintenant 5 ans et plus, j'avais des astuces à vous donner aussi. Donc on va faire ça, on va bien sûr avoir des news et rumeurs beaucoup plus tech ensuite également, mais j'espère qu'on réussira à vous faire passer un moment, si ce n'est amusant, au moins vous changez un petit peu les idées pendant quelques dizaines de minutes. Mais avant ça, je voudrais quand même parler un tout petit peu de la question de l'aplatissement de la courbe. Et c'est vrai que ça n'a pas vraiment à voir avec la tech, mais au moment où on enregistre cette émission, on sort du week-end après les premières annonces. On a eu la deuxième série d'annonces du président. Et il y a beaucoup de gens qui sont sortis et qui sont allés se balader et qui sont allés boire des coups en terrasse malgré les recommandations. Et je me dis que même si ce n'est pas le sujet sur lequel porte l'émission, il y a une question, j'ai une petite voix dans le panorama, j'ai quelques dizaines de milliers d'auditeurs et je crois que dans ces questions de problèmes de santé publique, ce n'est peut-être pas plus mal de rappeler la chose est d'expliquer, parce que je suis convaincu que les gens qui sortent malgré tout, c'est parce que pour la plupart, ils ne comprennent pas l'importance de cette question d'aplatir la courbe. Donc, promis, montre en main, pas plus de 2 minutes pour expliquer ça. En fait, avec une contamination de ce type, avec une pandémie de ce type, enfin avec une pandémie, le problème est que les services de santé, même s'ils peuvent gérer les cas de malades, la contamination est tellement rapide que la courbe dépasse la capacité des services de santé très très vite. Et donc l'idée de l'aplatir, c'est de retarder, de ralentir la répartition de la maladie sur le territoire, d'avoir aussi peu de cas que possible à la fois pour que, sur la durée, les services de santé puissent gérer les malades. Et donc, même si on est soi-même porteur, si on n'a pas à grand risque, si on n'est pas en grand danger, il est très important de ralentir la diffusion et donc de ne pas avoir beaucoup de cas. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de rentrer chez eux, parce qu'au final, il est probable qu'une très grande partie de la population aura le virus de toute façon. Mais il est important qu'on l'ait pas tous en même temps, parce que déjà que la situation est très compliquée à gérer pour les services de santé et qu'il y a des gens qui se font soigner dans des conditions difficiles, dans les couloirs, on le voit en Italie, etc. Et ben, si on rajoute des malades en plus, c'est impossible à gérer et ça provoque plus de morts, vraiment. Il va déjà y avoir des morts, mais il y en aura encore plus. Donc, il est vraiment important d'être responsable et même si on ne se sent pas en danger soi, de faire tout son possible pour ralentir la diffusion de la maladie et aplatir cette courbe pour qu'elle soit allongée dans le temps et qu'il n'y ait pas un énorme pic. Donc voilà, je voulais juste expliquer la chose et je mettrai en lien dans les notes de l'émission l'article de Thomas Pueyo qui est hyper pris en référence partout, qui explique ça vraiment très bien. Il existe en anglais, en français et dans plein de langues. Je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil. C'est en plus assez passionnant pour comprendre le fonctionnement de la maladie. Donc voilà, petit message d'utilité publique, on va dire. Je ne sais pas si j'ai fait les 2 minutes montre en main. Tu comptais, Marion ?
C'est bon, tu as commencé à 7, il est 9, bon timing.
On n'est pas loin, on n'est pas loin. voilà, on va maintenant parler d'autre chose, mais avant je voudrais quand même remercier, ça fait un peu bizarre ça aussi, mais bon, tout fait bizarre en ce moment, donc je voudrais quand même remercier les gens qui soutiennent l'émission. Miguel Freitas, François Colombel, Maurice Fefferman, Sig Bédic, Jocelyn Gedreit, BDG, Biboussic, l'ami Biboussic, Psylopathe, Quentin Chalopin, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Chenapan, je suis sûr que tout le monde lui dit ça tout le temps. Désolé Quentin, ça ne doit pas être la première fois qu'on te le dit. Et Thierry Huguenin, merci à vous tous et merci à ceux qui choisissent de soutenir l'émission. C'est grâce à vous que l'émission peut exister et qu'elle est là pour vous distraire, pour tous les autres aussi, dans ces moments un petit peu compliqués. Alors, on va commencer notre premier sujet. En fait, là encore, un sujet un petit peu différent. Parlons télétravail, puisque certains d'entre vous m'ont posé la question. Je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils pour télétravailler au mieux, puisque beaucoup d'entre vous y sont contraints pour la première fois. Et le premier conseil que je vous donnerai, c'est celui que donne à peu près l'intégralité du monde, c'est de s'habiller le matin. Ça peut être bête, hein, mais vraiment, pour passer du mode « je finis mon petit déjeuner » au mode « maintenant je bosse », eh ben, le fait de vraiment se laver, de s'habiller, ne vous asseyez pas à votre bureau avec votre ordinateur, genre en vous réveillant, en vous disant « je vais checker mes mails » parce que très vite, on y passe 1 ou 2 heures. Avant d'y aller, vous prenez votre douche, vous vous habillez, vous vous faites tout beau, tout propre et là, vous commencez votre journée de travail. Je pense que c'est important. Un autre aspect, c'est aussi de prendre le temps, enfin pour moi en tout cas, vraiment prendre le temps de déjeuner. Moi, j'essaye de faire, alors j'y arrive pas forcément tous les jours, mais j'essaye de faire une vraie pause à midi, de prendre au moins 1 heure pour déjeuner en me regardant une petite série quand je peux, de prendre 1 heure pour déjeuner pour faire un vrai break. Parce que là encore, quand on est à la maison et qu'on bosse de la maison, on a tendance à faire dépasser les moments de travail et à pas avoir de limite, donc ça peut vraiment aider. Moi, ça me fait un break, ça me permet de repartir pour le reste de la journée. Sinon, c'est une longue session ininterrompue, parce qu'en plus, il y a un truc à noter, c'est que on n'a pas les interruptions des collègues. On va pas à la machine à café, on va pas aller voir ce que fait Élodie de la compta, on n'a pas ces petites interruptions qui permettent de décompresser un petit peu. Souvent, il n'est pas rare que quand on bosse de chez soi, eh ben, on part dans un tunnel et on bosse sans s'arrêter. Donc, bref, la pause déjeuner, c'est important. Et séparer le boulot du reste de la journée, c'est important aussi. Si on a 2 ordinateurs, c'est idéal. Ou alors, l'ami Kassim nous disait une session de Windows différente, une pour le boulot, une pour le perso, ça peut être utile. Un autre truc également, c'est faites attention à votre posture. Il est probable, il est possible que à votre boulot, vous ayez des chaises de bonne qualité, peut-être même des bureaux designés par des gens qui font attention à leur à la posture, que ça soit ergonomique. C'est peut-être moins le cas chez vous, ou peut-être que vous allez prendre une chaise de la cuisine et vous mettre sur une table de la cuisine pour bosser. Si vous pouvez, faites attention à ça, que ça soit les bonnes hauteurs, etc. Et levez-vous régulièrement. Là encore, la question du tunnel, c'est très possible de se mettre 2-3 heures sans se lever, sans bouger. Les montres connectées, d'ailleurs, font ça très bien. Elles vous donnent un rappel toutes les heures, par exemple, pour vous lever. Il suffit de pas grand-chose. Hein. Vous vous levez une minute, vous faites 2-3 étirements et ça aide énormément. Alors, c'est le cas au boulot aussi, mais on le fait peut-être plus naturellement quand on a des collègues, quand on a des réunions, etc. etc. Donc, pensez à ça. Et enfin, dernière astuce de mon côté, c'est un truc qui m'a été recommandé par ma femme, qui a lu ça quelque part. Alors, c'est pour les enfants. Le nôtre, les crèches viennent de fermer là en Finlande. Enfin, elles sont pas fermées, mais on demande aux gens de les réserver aux personnes qui ne peuvent pas garder leurs enfants chez eux et qui ont, enfin, les personnels de santé. Ou c'est tout bête, hein, mais nous, on vit à la campagne. Et par exemple, on a besoin que les agriculteurs, on n'y pense pas, mais que les agriculteurs puissent continuer à faire leur travail, parce que sinon on n'aura rien à manger à l'automne. Donc ne serait-ce que ça, il faut leur laisser la place. Bref, notre fils sera à la maison, on va essayer de s'organiser pour le garder aussi, mais il est un petit peu trop jeune pour ça, mais pour des enfants un peu plus âgés, c'est pas mal d'avoir un emploi du temps divisé en différents, en plusieurs blocs de 30 ou 45 minutes en fonction de l'âge, et de l'expliquer aux enfants et de lui dire maintenant pendant 45 minutes de faire des activités. Tu vas faire ceci, un petit jeu ou les devoirs ou ceci ou ce genre de truc. Et puis au bout de 45 minutes, on arrête ce qu'on fait, on va les voir et on leur donne un petit timer pour leur montrer, voilà, c'est tant de temps que tu vas devoir faire ce truc. Et puis, on va les voir, on change d'activité. On essaye 2-3 fois par jour, au moins, de leur consacrer vraiment une période où on va être avec eux 20-30 minutes, ce que c'est, et sans aucun boulot à côté. Mais c'est une manière d'organiser la journée avec les enfants qui peut aider. Évidemment, ça ne va pas être facile, hein, et ça va être facile pour personne, mais ça peut aider un petit peu. Donc voilà pour mes quelques conseils de télétravail. Je me demande, Marion, si toi, tu en as d'autres auxquels j'aurais pas pensé, peut-être ?
J'ai des collègues aussi qui ont des enfants et qui partagent leurs astuces. Alors moi, j'en ai pas besoin, mais du coup, c'est intéressant parce qu'ils, avec leur partenaire, par exemple, l'un s'occupe de l'enfant le matin, comme ça, le papa peut par exemple travailler le matin et le papa prend le relais l'après-midi et comme ça, la maman peut travailler l'après-midi 100% consacrée. Donc c'est intéressant de, à la fois cumuler ces petites périodes de 30-45 minutes parce que ça aussi, je l'ai vu passer comme information. Ça a l'air de bien marché. Il faut planifier un petit peu les programmes et les définir avec les enfants aussi quand c'est possible. Mais ça a l'air de bien marcher. Et pour l'instant, mes collègues ont l'air de faire ça. Enfin, ils vont tester cette semaine, hein, principalement. De mon côté, il y a pas mal d'outils collaboratifs sur lesquels vous pouvez vous reposer. L'écrit, c'est votre meilleur ami quand vous travaillez à distance. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une société qui a déjà tout mis en place pour qu'on soit vraiment... compatible télétravail à fond. Donc en fait, on a toutes les prises de décision qui sont à l'écrit via GitHub, par exemple. Oui. Donc dès qu'on a un problème à résoudre, on va ouvrir un espèce de petit article de blog avec un petit formatage qui dit définir en une phrase quel est le but de votre article, quel est le problème à résoudre, quel est le contexte et les informations que vous avez, quelles sont les informations qui vous manquent, etc. etc. Je traduis un peu au fur et à mesure, mais... Et au final, après, on partage ça sur Slack une fois que c'est publié. On partage ça sur Slack en mentionnant les collègues. On l'a mentionné également dans GitHub et on le partage sur Slack parce qu'il y a plus de visibilité. Et ça permet ensuite de communiquer, d'être un peu plus dynamique. Il y a les outils aussi pour ceux qui font des sessions d'idéation où il y a besoin, par exemple, de faire des sessions de post-it, de brainstorming, etc. Il y a l'outil Miro, M-I-R-O, qui est assez pratique, miro.com, où vous pouvez collaborer sur un tableau blanc digital, on va dire numérique, comme ça, tous ensemble, et vous pouvez faire ces sessions de brainstorming. Voilà, il y a plein de Trello aussi, c'est assez pratique. Donc en termes d'outils, voilà, tout ce qui est à l'écrit va vraiment vous aider. Et plus vous êtes capable de structurer votre pensée à l'écrit, plus ça va aider vos collègues justement à être réactifs et à pouvoir travailler et collaborer avec vous de manière efficace.
Très bien, effectivement, il y a plein d'outils de ce type-là. Je rappelle les noms de ceux que tu as mentionnés. Alors Slack, évidemment, qui est une sorte de grande chatroom qu'on peut diviser par sujet, si on le souhaite, avec différentes chaînes. C'est celle qu'on utilise pour les patriotes, pour les gens qui soutiennent l'émission. On a le Slack, je vous en parle de temps en temps depuis longtemps. Il y a une version gratuite qui est déjà pas mal du tout pour les entreprises, on va dire, de petite taille ou de taille moyenne, surtout si vous gérez bien le truc. C'est Slack, S-L-A-C-K. Je mettrai peut-être dans les notes de l'émission. Pour la gestion de projet, tu as GitHub de ton côté, c'est ce que tu mentionnais. Pour le brainstorming, Miro ou Trello. Je mettrai les liens dans les notes de l'émission. J'imagine que les sociétés, les grandes sociétés ont déjà des outils de ce type, mais si vous faites partie des entreprises qui n'ont, ou même des indépendants qui doivent travailler avec des collègues et des camarades qui n'ont jamais eu besoin de ce type d'outils, ça peut vous être utile.
Et une autre note sur les collègues, parce que toi tu travailles principalement de manière indépendante, Patrick, mais moi mes collègues me manquent quand même. Et l'écrit, ça remplace pas les cafés, etc. Ce qu'on a mis en place, c'est après le déjeuner, c'est de 1h à 1h30, on a un lien sur Google Hangout. Et ceux qui avaient l'habitude ou qui avaient envie de se retrouver pour un café après le déjeuner, on peut tous se retrouver pour prendre un café et rattraper un petit peu, ce qui est sympa parce que ça permet de ne pas perdre le lien social avec ses collègues. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis l'aspect aussi des nouveaux arrivants dans une boîte, ça s'est passé aujourd'hui. On est tous en train de travailler de chez nous et on a accueilli 11 nouvelles personnes dans la boîte aujourd'hui. Ouais, on grossit. Et du coup, il y a la question qui se pose, hein, comment on va onboarder ces personnes, les accueillir et les faire se familiariser avec les outils, la culture de la boîte et les sujets que l'on traite, etc. Et donc moi, par exemple, je vais être un partenaire, un collègue de référence pour une personne qui vient d'arriver. Et donc pour toutes ces questions qu'elle peut avoir sur les outils, comment on travaille, etc. Elle peut évidemment me parler, mais ça c'est en temps normal. Et là, pour pas perdre le contact, on va essayer de se faire un appel vidéo au moins une fois par jour, parce que c'est un petit peu difficile quand on commence dans une nouvelle boîte, ça peut être un peu stressant. Et donc c'est important d'être présent auprès de ces personnes aussi.
Super, et écoute, merci beaucoup. Tu mentionnes que je travaille en indépendant, c'est évidemment le cas, mais un petit peu moins depuis une semaine, puisque c'est également un moment un petit peu bizarre pour elle, pour venir travailler avec moi. Mais la freelance dont je vous parle depuis un certain temps, que j'ai demandé de venir m'aider, à laquelle j'ai proposé de venir m'aider pour l'émission quelques heures par semaine, elle a commencé depuis une semaine. Elle s'appelle Fanny. Vous pouvez aller lui dire bonjour sur Twitter. Fanny Como, C-O-M-O. Elle est absolument extraordinaire. Cette semaine a été idéale déjà. Et je suis sûr qu'on va collaborer de manière magnifique pendant les semaines et les mois à venir. Mais c'est l'occasion de la remercier de son travail et également de vous annoncer que la pub, ça sert, et c'est vraiment quelque chose qui est important, puisque ça me permet de financer, alors c'est effectivement un temps partiel, c'est quelques heures par semaine, mais de financer le travail de Fanny qui, en partie maintenant, accomplit des missions en freelance pour moi. Donc c'est super cool, et on a bossé, donc c'est très bizarre pour moi qui ai bossé tout seul depuis longtemps, mais on a bossé, on commence à prendre notre rythme dans le contexte de ce virus qui, pour nous, ne change pas grand-chose puisqu'on travaille à distance de toute façon. Mais voilà, donc réservez-lui un accueil chaleureux. Si vous allez la voir sur Twitter, dites-lui un bonjour de digne des auditeurs du Rendez-vous Tech.
C'est une super nouvelle et une super évolution pour le Rendez-vous Tech, bravo.
Oui, je suis super content parce que, comme je le dis souvent, cette dualité entre pub, qui représente une petite partie des revenus, et soutien participatif, qui représente la plus grosse partie, est importante et fonctionne. Et là, c'est la preuve. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. C'est que sans ce modèle mixte, ça ne serait pas possible comme ça. Et j'espère qu'elle va me permettre de peut-être m'aider un petit peu maintenant que le petit est à la maison. Donc, j'ai moins de temps pour bosser, mais aussi m'aider à produire plus, produire mieux, produire différemment. Et donc, voilà. On travaille à tout ça tous les deux et c'est très très cool. Maintenant, parlons un petit peu des conséquences tech de ce fameux virus, de cette fameuse pandémie, avec, comme je vous le disais, alors tous les trucs qui ferment, on en a beaucoup entendu parler. Est-ce que j'ai dit pourquoi Jeff n'était pas avec nous ? Je ne me souviens plus. Je ne sais pas si je l'ai mentionné
alors,
dans l'émission.
Oui, voilà, c'est ça. Je me pose la même question. Je sais que tu l'as mentionné quand on s'est dit bonjour hors antenne, mais je ne suis pas sûre que tu l'aies précisé
aux auditeurs. Alors, durant l'émission. Je vais le faire et désolé si je me répète, mais en fait, il a été l'État de Californie, dans lequel il réside, vient d'implémenter un confinement comparable à celui qu'on a dans d'autres pays, y compris la France, un confinement général, et donc il a dû rentrer chez lui en catastrophe et il ne pouvait pas être présent pour l'émission. Donc les choses sont à peu près comparables maintenant un peu partout dans le monde. Mais comme je le disais, toutes ces histoires de confinement, les boîtes qui bossent à distance, les commerces qui ferment, on connaît tous. Des trucs un petit peu plus intéressants, Telecom Italia a annoncé que le trafic sur son réseau avait sauté de 70%, principalement à cause de jeux comme Fortnite, à partir du moment où l'Italie a fermé ses écoles, ce qui est assez intéressant à constater. C'est assez amusant. C'est pas le jeu en lui-même, les parties en elles-mêmes qui causent cette hausse du trafic si substantielle. C'est surtout le téléchargement des patchs et tout ça. La plateforme Steam a également dépassé les 20 millions d'utilisateurs simultanés. C'est la première fois que ça leur arrivait. Et Niantic, les développeurs de Pokémon Go, a changé les mécaniques du jeu pour faire en sorte que les joueurs n'aient pas besoin de marcher loin pour pouvoir jouer au jeu. Donc ça affecte effectivement, principalement, c'est peut-être un truc dont on pouvait se douter, les réseaux internet et le jeu vidéo. C'est un petit peu normal, moi ça ne va pas me déplaire, les gens s'adonnent à ce loisir qui est également une passion pour moi. Donc,
j'ai passé mon dimanche à pas le dimanche entier, mais à pas mal jouer. Et du coup, grâce au rendez-vous tech, je sais pas si c'est vraiment grâce, j'ai réouvert Pokémon Go parce que du coup j'étais curieuse.
Mais donc, tu as pu jouer de chez toi sans te déplacer.
Non, mais c'était pour l'aspect journalistique.
Ah,
j'ai fait une enquête, Patrick, pour voir justement les évolutions du jeu. Alors, j'ai vu aucune différence pour l'instant.
Ah, d'accord, c'est peut-être pas encore en place alors.
Peut-être que j'ai pas encore bien mis à jour l'application, mais en tout cas, oui, j'ai pu jouer. Et du coup, j'ai un peu relancé tous les jeux que j'avais oubliés qui étaient cachés sur mon smartphone. Donc, ça promet.
Écoute, je peux également recommander aux auditeurs d'écouter Positron. Il y a un backlog de plus de 100 épisodes avec deux ou trois conseils de trucs cool dans chaque épisode. Donc, des jeux, des films, des séries, des livres, de la musique. Si vous avez besoin de conseils, Positron, c'est un podcast qui vous intéressera peut-être.
Très, très bon podcast.
N'est-ce pas ?
Il nous manque.
Tout à fait objectif. Oh, écoute, il y en a de temps en temps. Le dernier, c'était il y a deux semaines, je crois. Même pas, une semaine.
Ah, mais attends, alors je ne suis plus abonné. Il faut que je me réabonne.
Ah, parce qu'il a été... C'est vrai, il avait été interrompu pendant un moment, mais je l'ai ramené. Donc,
Mais il faut que tu fasses de la campagne de pub, là, sur ton compte Instagram.
je vais promouvoir Positron. C'est pile le bon moment, en plus.
Ah oui.
Il y a également les sociétés tech qui offrent, quand on parle de connexion Internet, Free offre 1 giga de données pour la 4G, même aux forfaits les moins chers. Donc 1 giga, ça permet de voir venir un petit peu. Canal+, est entièrement gratuit pour tout le monde. Aux États-Unis, AT&T et les autres fournisseurs d'accès ont déclaré qu'ils allaient ne pas activer les limites de données, à la fois pour les réseaux mobiles et les réseaux filaires. Ce qui est intéressant, enfin, il y a deux choses intéressantes là-dedans, c'est que d'une part, si vous ne le saviez pas, aux États-Unis, ils ont des caps, un nombre de...
Des limites.
Des limites, voilà, merci. C'est difficile le français. Des limites de données pour les réseaux filaires aussi. Même si vous êtes en fibre, bah, vous avez une limite à quelques dizaines ou centaines de gigas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, bah, ils vont faire sauter les limites. Donc, leur argument qu'ils mettent les limites parce que leur réseau ne pourrait pas tenir, là, les réseaux, ils vont tenir, croyez-moi. Et c'est de manière intéressante, c'est, ils vont tenir et ça montre que en fait, la capacité, c'est vraiment une démarche commerciale et pas une démarche de capacité, quoi.
Ça, c'est très intéressant. Ça sera encore plus intéressant de voir l'après-événement de santé internationale, de voir justement comment ça va faire évoluer potentiellement les règles.
Bah, c'est sûr que à ce niveau, ça risque de faire évoluer les règles, mais ça va peut-être faire évoluer les règles et les habitudes pour tout un tas d'autres choses également. Le télétravail, par exemple, peut-être que les gens vont s'y habituer, les sociétés vont implémenter les choses, pas de manière permanente, mais de manière occasionnelle. Il est possible que forcer les sociétés, les acteurs de la vie sociale changent un petit peu leurs habitudes, c'est vrai.
Ah, mais je pense que ça va avoir un impact, comme tu dis, assez important sur notre manière de travailler, notre manière de consommer. On va le voir avec notamment la livraison. Par exemple, la télémédecine aussi, qui avait une vraie barrière à l'adoption de ce service, c'est-à-dire que vous consultez un médecin à distance via un appel vidéo. Et ben ça, il y avait une vraie barrière à l'adoption. Ben là, c'est un événement qui fait que de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se lancent pour utiliser pour la première fois la télémédecine. Donc, c'est assez intéressant de voir l'évolution de l'adoption et l'évolution des usages.
Ben, c'est vrai qu'en plus, toi, tu l'as mentionné, mais on le rappelle, tu travailles pour la société Alan qui fait de l'assurance, de la néo-assurance, comme on a les néo-banques. C'est une des solutions que vous voyez dans votre travail quotidien, la télémédecine. Vous avez ce genre d'outils déjà en place depuis avant la crise ou...
Oui, on a un partenariat, en fait, c'est pas nous qui le faisons directement, on a un partenariat avec Livy, que tu dois connaître, puisque ça vient des pays nordiques. Donc voilà, ils étaient déjà présents en France.
C'est à ça que j'allais en venir, en fait. Oui, pardon, je t'interromps, mais c'est quel outil utiliser ? Parce que si on dit aux auditeurs, bah, la télémédecine, c'est possible, comment ça s'appelle ? Livy, L-I-V-I,
exactement. D'accord. Alors, c'est la société CRAE. Je sais pas si tu connais plus la société.
Pas plus, non.
Mais voilà, c'est un des acteurs majeurs de la télémédecine. Et donc, en France, il y a Livy, mais il y a également Doctolib qui fait de la télémédecine aussi.
Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Ah oui, Doctolib, les gens connaîtront, effectivement. Et Livy, c'est livy.fr. Donc, c'est très simple. Et donc, on peut consulter un médecin en télémédecine avec cette app. C'est
tout à fait
intéressant à savoir, d'accord.
Et à savoir que le gouvernement a assoupli les règles de remboursement pour les consultations en télémédecine.
J'avais regardé la chose la semaine dernière pour une autre raison et c'est vrai que la télémédecine a été implémentée, ça fait 10 ans que, enfin les tests ont commencé il y a même presque 15 ans, mais c'est vraiment implémenté depuis presque, enfin un an et demi et c'est autorisé les remboursements, enfin bref vous pouvez vraiment faire de la télémédecine depuis un an et demi, donc j'imagine que ces apps utilisent la législation en vigueur qui a changé il y a un an et demi pour fonctionner.
Oui, mais elle a été assouplie juste là
en
récemment
plus, oui,
pour le coronavirus, oui.
Mmh. Ok, donc voilà encore une des conséquences. Il y a toutes les questions de télétravail. Il y a Zoom qui est une société qui fait de l'appel vidéo. Alors, il y a certains dont les valeurs boursières montent, même si toutes les autres dévissent. J'imagine que Zoom en fait partie. La montée de WhatsApp également, en particulier en Italie, et Microsoft Teams, qui a eu du mal à suivre d'ailleurs. D'après ce que j'entends, les commerciaux de Microsoft Teams, ils vendent des licences, mais à tour de bras. Bon, il faut le temps que les réseaux s'adaptent aussi. Un autre aspect intéressant par cette question de télémédecine, qu'il faut mentionner aussi quand même, c'est le fait que la division entre les gens qui sont dans le monde numérique et qui peuvent, et ceux qui n'y sont pas ou qui ne peuvent pas pour leur travail, cette division s'accélère ou en tout cas est de plus en plus visible. C'est un truc qui est évidemment auquel on ne peut pas, je crois, grand chose aujourd'hui tout de suite comme ça, mais c'est intéressant de constater et de voir que la fracture numérique, mais là au niveau vraiment pratique. C'est pas juste parce que on peut pas aller consulter Google, mais cette fracture numérique qui est beaucoup plus importante, soit parce qu'on n'a pas accès, soit parce que dans son boulot, ben on peut pas travailler à distance. Et ben elle est, pour le coup, elle prend une importance démesurée, quoi.
Oui, c'est on le voit avec, ça impacte, on voit tous ceux qui sont potentiellement au chômage technique, etc. Là, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit, nous, on peut pas travailler, on est au chômage technique, quoi.
Ouais. Alors évidemment, toujours dans cette histoire d'aplatissement de la courbe, il y a le fait qu'on doit aplatir, mais ça, les gens qui ne peuvent pas rester chez eux, et ben, je ne sais pas quelles sont les directives précises là après le discours d'il y a une heure du président, mais j'imagine que les gens qui doivent aller travailler et qui ne peuvent pas rester chez eux, ils vont quand même travailler. C'est pas que tout le monde doit rester. Encore que je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, donc je vais.
Je sais que par exemple, tous les commerces non indispensables, donc tout ce qui est bar, restaurant, etc. Donc voilà, pour eux, ils vont être dans une situation spécifique. Mmh. En effet, s'il est possible de continuer à travailler quand même, tout ce qui est logistique, par exemple, livraison, approvisionnement, etc., ça, il faut que ça continue à fonctionner. Hein. Ouais. Ils auront des mesures d'hygiène beaucoup plus renforcées, évidemment, mais ils peuvent continuer à travailler.
Bon, à part ça, il y a tout l'ensemble des écosystèmes de contenu qui doivent modifier un petit peu leur fonctionnement, soit les App Store, les YouTube, les Netflix qui modifient leur fonctionnement d'une manière ou d'une autre. Les App Store et les eBay et les Amazon, ils n'acceptent les nouveaux contenus, que ce soit de la marchandise ou des apps, que dans certaines conditions. Dans le cas de l'App Store, c'est si pour les apps qui parlent du coronavirus, enfin du Covid-19, c'est uniquement des organismes reconnus, ce qui est évidemment une assez bonne chose, je pense. Il y a Alphabet, Verily, c'est-à-dire la société mère de Google, l'une des filiales de la société mère de Google, ou l'une des sociétés de la société mère de Google, qui a mis en place un site web pour essayer d'aider à la traque, à la reconnaissance,
à
l'identification, merci, des malades. On se demande d'ailleurs quelles données ils vont utiliser, parce qu'il faut se connecter avec son compte Google et c'est une série de questions, mais est-ce que dans un second temps ils pourraient utiliser nos données pour savoir, comme on en parlait avec le système chinois, utiliser toutes les données qu'ils ont avec ce système et les envoyer ensuite à la police. Alors ça, c'était le cas du gouvernement chinois, de l'application chinoise. On imagine que ça ne serait pas le cas avec l'application de Google, mais est-ce qu'ils pourraient utiliser nos données, parce qu'ils ont les données de déplacement sur le compte Google? Ils ont peut-être, ils savent qui sont nos amis avec les gens avec qui on envoie des emails, etc., etc. Est-ce que ça pourrait aider à identifier les personnes avec qui on aurait pu être en contact, qui auraient pu être malades, etc., etc. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait peut-être arriver. Puis il y a des productions qui s'arrêtent, etc., etc. Donc, et il y a aussi des gens, notamment chez Apple, qui sont obligés d'aller au boulot parce qu'il y a des questions de confidentialité et ils ne peuvent pas travailler de chez eux parce qu'ils ne peuvent pas emmener leur travail chez eux parce que c'est des produits confidentiels. Alors là encore, vu le confinement qui a été mis en place par l'État de Californie, on ne sait pas si... j'imagine que ça concerne également ces employés-là, ou je ne sais pas s'ils ont une décharge. ça sera à voir. Mais ceux-là, jusqu'à maintenant, même si le reste des employés pouvaient travailler de chez eux, eux, ils ne pouvaient pas, il devait aller au boulot.
Oui, après, ce qui est important, c'est en effet, c'est des mesures pour permettre aux personnes de ne pas être confinées dans un groupe, en fait, de ne pas être à proximité. Donc, si la majorité des employés peuvent travailler de chez eux et que certains peuvent continuer de venir au boulot, mais en gardant une distance respectable. On respecte les mesures de sécurité. Après, c'est là où on se rend compte aussi que la confidentialité et la méthode de travail peut-être d'Apple est vraiment stricte pour le coup.
Ah bah sur ce point, oui, il est évident que c'est un truc important pour eux. Dernière chose, l'E3, le salon du jeu vidéo, a été annulé. On en parle plus dans le rendez-vous jeu. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter ça, mais on a plein de discussions intéressantes sur ces sujets. Petite pause maintenant pour... je vais quand même vous parler du rendez-vous tech et du Patreon, mais alors vraiment en deux secondes, parce que je vais pas passer beaucoup de temps dessus. Dans ce contexte, ça me paraît bizarre, juste pour vous dire, si vous vous dites depuis des semaines, uniquement si c'est votre cas, hein, des semaines ou des mois, « Ah ouais, faudrait que je donne peut-être », et bien là, vous êtes devant votre ordinateur, vous avez l'occasion, c'est peut-être le moment, le fameux Kling Patrick où les clés viennent dans le bol et vous rentrez chez eux et là vous dites « Ah bah ouais, maintenant je peux y aller, je peux me mettre devant mon ordinateur ». Peut-être que maintenant vous êtes devant votre ordinateur. Donc dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech, vous pouvez aller faire un tour là-bas.
Vous n'avez plus d'excuses que vous êtes dans les transports en commun ou dans votre voiture.
je me sens un petit peu sale de dire ça, tu vois, parce que c'est genre, c'est pas que j'essaye de profiter de la situation. Dieu sait que c'est pas du tout le cas, mais c'est juste si, c'est pour ça que je dis, si vous y pensiez avant et que vous êtes toujours partant, si vous appréciez ce que je fais, pourquoi pas. Maintenant, bon, je comprends que c'est pas non plus le moment où on pense à ces choses-là. Mais bon, si vous êtes dans cette catégorie, patreon.com/rdvtech.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Les rumeurs et les petites infos en plus. Alors évidemment, tout est chamboulé, mais on a deux ou trois petites choses du côté de Google. D'une part, le Pixel 4a devrait arriver en vente à $400 du côté des États-Unis. On imagine qu'il sera disponible en France aussi. À moins... Pardon, on s'est réveillé tôt ce matin. On imagine qu'il sera disponible en France aussi. On ne sait pas quand exactement, mais il devrait pas tarder. Mais le problème, c'est qu'avec les changements dus à la pandémie, bref, il y aurait une caméra, un écran qui fait une bonne partie de la taille avec un petit trou pour la caméra, comme on le voit souvent désormais. Ça fait à peu près la taille de l'iPhone 10, enfin des nouveaux iPhones, mais avec un petit trou qui se voit presque pas. Sur le côté pour la caméra.
Dans un des angles.
C'est ça, dans un des coins. Il aurait donc un port jack, un écran 60 Hz de 5,8 pouces et une belle résolution de 443 points par pouce. Un processeur Snapdragon 730 et 6 Go de RAM, c'est standard, on va dire. C'est le Pixel relativement milieu de gamme, on va dire, à $400, ce qui donnera sans doute 500€ à peu près. Le 3A était de très bonne qualité. Donc voilà, c'est un téléphone à garder à l'esprit si vous êtes... si vous cherchez un nouveau téléphone Android, sachant que là, je ne crois pas qu'on ait de date pour la disponibilité. Donc voilà. Il y a également une nouvelle Chromecast Ultra qui devrait arriver. Donc les petits équivalents, enfin les TV sticks, les trucs qu'on met dans le port USB.
Les dongles, ouais.
Le port USB, le port HDMI, voilà, le dongle HDMI qui nous permet de streamer du contenu depuis. Notre téléphone vers la télé, c'est un truc très simple, sauf que là, en fait, ils abandonneraient cet aspect streaming uniquement et ils auraient un petit Android TV dans la Chromecast, ce qui est quand même assez cool parce que j'avoue que, enfin pour moi en tout cas, l'aspect streaming ne m'a jamais 100% convaincu, ça m'est utile de temps en temps, mais avoir Ouais, moi j'ai, je sais pas, je l'utilise hein, de temps en temps sur ma Chromecast. J'ai une Chromecast 4K Ultra, mais qui est venue avec mon Stadia d'ailleurs. C'est bien le seul truc qui m'a servi un petit peu. Mais,
mais oui, c'est vrai.
Un petit peu. Mais je sais pas, c'est un truc que je préfère quand j'ai une app. Tu vois, je suis old school.
Moi, t'as une app sur ton smartphone.
Oui, mais. Je sais pas pourquoi, le fait de l'envoyer depuis le smartphone sur le truc, je préfère quand il y a une app bien séparée.
Et du coup, tu as une télé Android, comment ça se passe ?
Ben non, j'ai juste une télé, enfin moi j'ai une télé LG qui est sous WebOS, il survit dans ma télé LG, dont je suis très content d'ailleurs, mais j'ai surtout mon Apple TV qui me sert plus que le reste.
Voilà. Oui, parce que moi, je suis une fervente admiratrice et fan de Chromecast. Hein. J'ai utilisé la première génération. Là, j'en ai encore une, même si j'ai une télé compatible Android. Et je trouve ça super pour le prix que c'est. Quel écran un peu bête smart et c'est super pratique.
Ben c'est vrai que c'est pas le même but que une box qu'on va mettre sous sa télé avec des apps. C'est vraiment pour rendre une télé bête, la rendre intelligente à un tout petit prix. Même si les Chromecast ont monté en prix avec la montée en résolution, et là j'imagine qu'une version avec Android TV dessus sera peut-être un petit peu plus chère aussi. Donc c'est un produit intermédiaire peut-être. Et Google a également annoncé que G Suite, donc la suite avec toutes les applications de bureautique, avait 2 milliards d'utilisateurs. C'est marrant parce qu'on n'y pense pas forcément dans les produits Google. Google Apps, Google Pages, Sheets, etc. On y pense, mais on n'imagine pas que c'est 2 milliards d'utilisateurs, c'est quand même beaucoup, beaucoup. C'est presque autant que Facebook. Donc, c'est pas du tout le même type de produit, mais ça compte.
Tu travailles avec quelle suite, toi ? On est sur Google Sheets.
complètement.
Je pose la question, j'ai ma réponse.
D'accord, j'avais pas compris que tu posais vraiment la question et que tu t'étais donné toi-même la réponse en la posant, oui.
C'est
merveilleux. Moi, j'apprécie beaucoup Google parce que l'aspect en ligne tout le temps est pratique, tant que l'Internet fonctionne. J'utilise Office 365 pour d'autres choses, pour les trucs genre comptabilité, tout ça, c'est un petit peu plus sur Office, mais pour tout ce qui est boulot de production, c'est des documents un peu plus simples. Je suis 100% chez Google, moi, pour ça. C'est certain.
Ouais, ma boîte aussi, on est sur Google, ouais.
Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça, et puis ils te proposent, moi encore, j'utilise la version gratuite, mais c'est vrai que pour pas trop trop cher, tu peux te créer ta version de la suite bureautique de Google qui est... soit hosté chez Google, soit même... je crois qu'on peut la hoster chez soi. Non, peut-être pas. Ça, je pense peut-être à Microsoft. Mais oui, il y a plein de boîtes qui utilisent ça comme leur suite bureautique. J'imagine que c'est le cas chez vous, quoi.
Oui. Oui, mais alors, oui, tu me poses une question sur où est-ce que c'est hosté, enfin hébergé. Alors là, tu vois, je ne suis pas du tout sûre. Parce que du coup, on a des obligations justement sur la gestion des données. Donc...
Tout à fait, oui. C'est pour ça que j'y pensais. Mais je ne pense pas que Google vous laisse installer ça sur vos serveurs à vous. Mais j'imagine qu'il y a peut-être des instances plus protégées du côté de chez Google. Parce que j'ai du mal à imaginer que Google vous laisse installer ça chez vous. Mais je ne sais pas, peut-être en même temps.
Après, on stocke pas de données sensibles sur ces fichiers, quoi.
Oui,
c'est pas,
bien sûr. Ouais. C'est pas chez Google.
Pas les données des utilisateurs, quoi.
Peut-être, ouais. Enfin, chez Google, sur la suite bureautique, parce que Google fournit ce genre de service aussi, comme Microsoft et Amazon, évidemment. Alors, on parle un petit peu d'Apple également. Google et Apple, c'est bien, on fait les deux côtés des applications, des écosystèmes de smartphones. Toute dernière petite... news qui vient de tomber là, chez 9to5Mac, qui continue à collectionner les rumeurs. Le fameux iPhone 9 et 9 Plus, donc c'est ce dont on parle comme iPhone SE 2, donc la version moins chère des iPhones. Notez bien que je dis moins cher et pas cher. Mais bon, on serait dans le même ordre d'idées que pour le Pixel 4a. Ça serait deux téléphones au final et pas un seul. Et ils utiliseraient la puce A13 Bionic. Donc le A13, c'est le processeur qui est dans les iPhone 11 et 11 Pro. Donc, comme pour le SE, il utiliserait la dernière puce disponible chez Apple, et donc ça serait un, a priori, en fonction du prix qu'ils obtiennent, un très très bon rapport qualité-prix et qui tiendrait assez longtemps s'il est disponible là dans les semaines et le mois à venir, ce qui semble être la rumeur. On parle d'un téléphone qui aurait, on a deux tailles, 4,7 et 5,5 pouces, je crois bien. C'est ceux dont on entend parler. Il y a aussi des iPad Pro qui arrivent dans ces versions également, des nouveaux modèles qui arrivent en modèle 11 et 12,9 pouces.
Mais oui, hein, l'iPhone SE, c'était un super hit de la part d'Apple. Hein.
Oui,
il avait le meilleur de ce qui pouvait se faire à un prix super abordable pour Apple.
C'est, oui, mais bon, disons que c'est un téléphone à un prix milieu de gamme. On était autour de 400-500 euros, je crois, si je ne m'abuse. Et c'est la raison pour laquelle, je vais expliquer un tout petit peu quand même, mais la raison pour laquelle c'était à tel point un bon rapport qualité-prix, c'est que l'appareil, comme on le dit, bénéficiait du tout dernier processeur parce qu'Apple voulait en faire une ligne de production et le produire pendant plusieurs années. Pendant 4 ou 5 ans, je crois que le SE est sorti en 2015, quelque chose comme ça, je vais vérifier. Et donc, évidemment, au moment de la sortie, eh ben c'était 2016, pardon. Donc, au moment de la sortie, il avait des processeurs tout dernier cri, et donc il était vraiment de super intéressant. Au fil des années, évidemment, son processeur n'a pas évolué, donc il est devenu un peu moins intéressant. Mais là, on se retrouve dans le même cycle, a priori, pour cet iPhone 9 et 9 Plus. Et au moment de sa sortie, ça sera vraiment un bon deal, puisque vous avez pour... Alors, il y a plein d'autres aspects au téléphone, bien sûr, hein, et notamment l'appareil photo, mais pour la moitié du prix, on pense, le même processeur que sur les trucs super haut de gamme. Donc, c'est à noter si vous cherchez un téléphone dans les mois à venir. Apple serait en train de travailler également à une app de fitness qui s'appelle Seymour, c'est son nom de code, et qui fonctionnerait sur iOS, bien sûr, mais aussi WatchOS et tvOS, donc une app de fitness qui vous suit sur tous vos appareils, si vous êtes dans l'écosystème Apple, c'est encore un truc où on se dit, mais comment on n'y a pas pensé plus tôt ? Alors, c'est aussi un truc où on se dit, bah, c'est encore un truc de concurrence peut-être déloyale et d'abus de position dominante parce qu'ils viennent chasser sur le terrain des autres apps de fitness. Mais effectivement, ils sont tellement dans l'accompagnement du sport et de l'activité physique, une app de fitness. Moi, j'en ai essayé beaucoup. Je me demande si une app qui serait installée sur mon téléphone et qui communiquerait avec tous mes appareils, ça ne serait pas un truc qui me pousserait à utiliser une sur le plus long terme, quoi.
Même sur ton Apple TV ?
Bah exactement, j'abandonnerais mon Wi-Fi et je me baserait sur l'application d'Apple, peut-être. Nintendo ou Apple, cœur balance.
C'est dommage qu'il ne l'ait pas sorti en septembre dernier, pour le coup.
En septembre dernier.
Parce que là, avec les événements actuels, c'est quand même l'idéal pour sortir une app de fitness pour pratiquer du sport chez soi.
C'est vrai, c'est vrai. Ça, elle connaîtrait un pic d'utilisation, mais comme je pense, c'est le cas de toutes les applications de ce type en ce moment.
Ouais. Je pense aussi, ouais.
La rumeur qui fait plaisir, j'imagine, à Jérôme, encore que lui, il écrit tellement mal que je ne suis pas sûr qu'il utiliserait cette fonctionnalité, c'est la reconnaissance d'écriture manuscrite avec le Apple Pencil, avec leur stylet. Donc ça serait encore un truc qui existe à beaucoup d'endroits par ailleurs, mais la reconnaissance d'écriture manuscrite, ça pourrait aider pas mal de gens dans l'utilisation de professionnels des iPads. Moi-même, je pourrais être intéressé.
Toi, tu l'utilises le Pencil ?
Bah non, mais peut-être parce que je ne sais pas dessiner, je l'utilise très très rarement, genre pour signer un truc de temps en temps, mais si ça reconnaissait mon écriture, parce que parfois, tu veux prendre des notes. Et en fait, la raison pour laquelle c'est intéressante, la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Et il y a, comme on le dit souvent, il y a par exemple les Surface, les Microsoft Surface qui font ça très très bien. Je suis sûr qu'il y a plein de tablettes Android qui font ça très bien. Et il y a d'ailleurs des apps sur iPad qui font ça pas mal aussi. Mais comme toujours, quand c'est intégré à l'OS et au système, c'est peut-être un petit peu plus facile à utiliser. Et l'avantage que ça a, c'est que si ça fonctionne assez bien, eh ben, du coup, on n'a pas besoin de se trimballer un clavier séparé. Ça marche bien avec le stylet et ça peut permettre de rendre la station de travail en quelque sorte iPad plus mobile, plus fonctionnel, sans avoir le clavier en plus. Donc ça pourrait être cohérent qu'il le fasse, quoi. Une amende d'1 milliard d'euros a été décidée à l'encontre d'Apple pour des questions d'anti-compétitivité. Alors, c'est pas tellement dans le domaine numérique, c'est plutôt dans le domaine de la distribution, avec une sorte de cartel qui aurait été formé entre Apple et deux de ses revendeurs pour ne pas se faire de concurrence et garder les concurrents hors de portée. Alors, Apple fait appel. Apple fait appel, donc ce n'est pas encore le cas, mais c'est évidemment une amende monumentale, surtout au niveau de la France. Voilà, il y a plein d'autres petites rumeurs de chez Apple, mais je crois qu'on va attendre la WWDC qui aura lieu, elle aussi, en numérique, en virtuel. Apple l'a annoncé il y a quelques temps. Donc, pour les annonces des prochains OS, enfin du prochain iOS, il y a plein de petites choses, mais je crois que ce n'est pas forcément la peine de partir dans les détails qui n'intéressent pas forcément grand monde.
Ah, ça va être intéressant quand même si on revoit un petit peu le système de fonctionnement de la page d'accueil d'iOS qui a quand même pas bougé depuis pas mal de temps. Ça peut être assez sympa. Je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont nous présenter.
Bah, il semblerait que ça soit une liste d'applications qui puissent être classées différemment, un petit peu comme ce qu'on trouve sur Android, effectivement, qui pourraient être classées en fonction de l'utilisation récente ou du nombre de notifications, etc. C'est d'autant plus intéressant que plus on a d'apps, moins il est facile de les retrouver. Donc là, ça peut effectivement être une sorte de classement automatique pour cette version liste des applications. Toi, c'est un truc que tu utiliserais, que tu as attendrais.
Non, mais c'est, je ne sais pas si ça...
Ah d'accord, tu t'en fous, j'ai cru que ça te plaisait. Mais...
je ne sais pas si ça j'utiliserais, mais une des choses que j'aime le moins sur iOS, c'est la gestion des apps, en fait. Moi, j'étais fan de la gestion de Windows Phone. Ne rigole pas.
non, mais il y avait des choses très bien.
Je te dis de ne pas rigoler.
Pardon, c'était mécanique, mais non, il y avait des choses très bien sur Windows Phone, oui. oui, donc là, c'est vrai que c'est tout bête, hein, mais le fait d'avoir une liste des dernières applications utilisées qu'on mettrait, à laquelle on aurait accès facilement, je ne sais pas, avec un swipe en haut, en bas, j'en sais rien, ils verront comment ils le font, mais ne serait-ce que ça, les dernières applications utilisées, la plupart d'entre nous, on a genre 150 applications installées et 10 qu'on utilise vraiment tout le temps. Donc, si tu peux juste les mettre, tu n'as pas besoin de les organiser, c'est juste les dernières que tu as utilisées, bah voilà, c'est plus facile d'accès. Et c'est vrai que ça serait un truc qui serait bon à avoir sur iOS aussi, quoi.
Ou même, il va repérer les usages aussi et va te mettre en avant les applications que tu as l'habitude d'utiliser à tel moment de la journée ou quand tu arrives dans un lieu, etc.
Bah ça, c'est déjà le cas, par contre. Ça, si tu vas à droite, tu as les 4 applications proposées par... Pardon, c'est pas à droite, c'est en haut, en bas. Quand tu swipes vers le bas, tu as 4 applications proposées par Siri. Tu peux en avoir un petit peu plus si tu le souhaites. Et moi, je m'en sers souvent, ces applications. Il y a souvent celles dont j'ai besoin. Donc, c'est un petit peu une version de ça. Ah, c'est vrai qu'on peut
en
avoir 8.
Là, c'est toi-même qui va le déclencher, quoi. Alors que là, ça a l'air un peu mieux intégré.
Je ne sais pas si tu pourras choisir cette version de la liste d'app comme affichage par défaut. Je ne suis pas convaincu. Je crois que c'est tu as toujours ton affichage classique des apps sous iOS et il faut aller quelque part pour avoir cette liste-là, non ? Ou je me trompe peut-être ?
Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a la notion par liste et puis après, il y aura des suggestions intelligentes d'applications à ouvrir à un certain moment.
Oui, mais ça, c'est... Ah, et elles s'afficheront sur ton écran par défaut, ces suggestions ? T'as pas besoin d'aller
dans un... Je sais pas, elles se feront facilement accessibles. Alors, je sais pas comment ils vont le faire, mais là, ouais. le raccourci que tu donnes, c'est toi qui le déclenches, en fait.
Oui, mais c'est vraiment, je swipe vers le bas, et là, suggestion de Siri, j'ai 8 apps qui sont suggérées pour mon utilisation en fonction de l'heure, de la journée, de
mon utilisation préférée. Oui, tout à fait, mais a priori, là, ça va un peu plus loin. Mmh, donc, je sais pas jusqu'où, mais...
Peut-être une zone de l'écran où directement il te suggérerait ça si tu le souhaites, des apps qui s'afficheraient toutes seules sans que tu aies besoin d'aller les chercher, c'est possible.
Ouais. Bah, c'est comme la touch bar du MacBook Pro, quoi.
Tu n'augures pas d'une qualité.
N'en parle pas, je déteste cette touch bar. j'ai récupéré un bouton Escape normal, là je suis contente.
Ah d'accord, avec ton nouveau. T'as acheté un nouveau MacBook Pro, c'est ça?
Ouais, j'ai la dernière version là, et rien que le bouton Escape, c'est un bonheur. Ouais.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui détestent cette touch bar. Il y a des gens qui s'en foutent, moi je fais partie des gens qui s'en foutent un peu, ça me gêne pas plus que ça. Mais il y a peu de gens qui l'adorent vraiment, cette fonctionnalité. Donc,
Jérôme l'adore pour les émojis.
Effectivement, l'utilisation essentielle. Tiens, en parlant de Jérôme, il nous a parlé de ses Galaxy. Je ne sais plus s'il a fait le S20 et le S20 Ultra ou lesquels il a... Si, c'est le S20 Ultra. J'ai regardé son test. Ses premières impressions. Ouais. On commence à avoir des reviews de manière assez peu surprenante. Ils sont d'excellente qualité, c'est Samsung. Le truc qui est intéressant à noter, c'est que beaucoup de gens semblent dire que le S20 et le S20 Plus sont plus intéressants que le S20 Ultra qui ne sert pas forcément à grand-chose, en fait. Le Ultra, c'est celui où il y a vraiment tous les meilleurs trucs possibles. Évidemment, le prix est en conséquence. Mais peu de gens semblent le recommander. Pas parce qu'il est moins bon, mais parce qu'il n'apporte pas grand-chose de plus que les S et S20 et S20 Plus qui sont déjà hyper bons.
Oui, ça fait un peu de la surenchère, quoi.
Un petit peu, ouais. TikTok a lancé un centre de transparence à Los Angeles. Ils se battent vraiment comme des fous pour essayer de montrer patte blanche, on va dire. Dans ce centre de transparence, des experts extérieurs peuvent aller regarder le code, regarder la manière dont le contenu est modéré, etc. etc. Donc, ils essayent vraiment de s'assurer que l'ombre de la Chine n'est pas trop sur eux, et l'application continue à grossir énormément. Et en plus, ByteDance, la société mère, non seulement ils poursuivent leurs efforts avec TikTok en Afrique, ce qui est un marché évidemment hyper prometteur pour l'avenir, et ils sont en train de signer des deals avec des créateurs d'Instagram et de YouTube en Afrique. Ils grossissent beaucoup au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, etc. Donc ils partent à la conquête de l'Afrique, et ils ont également j'en parlais la semaine dernière, un site de streaming de musique en Inde, et ils ont l'intention de passer de 60 000 à 100 000 employés en 2020. C'est spécifiquement TikTok, c'est pas ByteDance dans son ensemble.
Ils ont 60 000 employés.
Tu te rends compte? C'est fou, hein?
Pour TikTok. Mais pour une application?
Mais oui, mais tu te rends compte à quel point c'est monumental. TikTok, c'est en train vraiment de grossir et de concurrencer les Twitter et les Facebook et les Instagram. Bon, on n'y est pas encore, mais la trajectoire.
Je me demande qu'est-ce qu'ils font, ces 60 000 employés, parce que c'est une application.
Oui, alors attends, peut-être que j'ai parlé trop vite. C'est ByteDance dans son ensemble qui aura, qui en a 60 000 et 100 000 à terme. Mais tu sais, Facebook, c'est qu'une application aussi, et je crois qu'ils sont pas loin des 100 000 employés. Hein.
Faut voir.
Facebook, c'est un peu plus complexe que TikTok, ouais. On est d'accord.
Puis là, il y a de la dette technique. Hein.
Oui, on est d'accord. Mais oui, donc ByteDance, dont TikTok, je pense, représente la principale activité quand même. Hein. C'est pas non plus qu'ils sont 150 à bosser sur TikTok chez ByteDance, tu vois. Mais je serais curieux, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse la recherche de savoir combien de ces 60 000 employés aujourd'hui bossent pour TikTok.
Ouais, ce serait intéressant, ouais.
Mais tu sais, quand ils sont en train d'essayer de s'étendre à ce point dans le monde et qu'ils gèrent toutes ces difficultés avec les États-Unis, etc., etc., mine de rien, et qu'ils font... Enfin, il y a du monde, quoi. Il y a du monde.
Bah, t'as les équipes qui vont gérer le contenu dans les différents pays, t'as les équipes légales avec les nuances par pays, etc. Enfin, oui, oui.
Les sales, c'est...
Ouais, tout à fait. Quoi.
Donc bon... je suis en train de voir si je peux trouver le Twitter, le headcount de Twitter, mais le nombre d'employés de Twitter, je ne suis pas sûr que je pourrais le trouver à temps. Ils sont seulement 4000 chez Twitter. Ah non, c'est en 2018, 4000, ils ne sont peut-être pas non plus hyper, beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Ils sont 5000 environ chez Twitter.
Oui, ouais, voilà, je suis pas sûre qu'entre 2018 et 2020, ils ont eu beaucoup de budget supplémentaire pour c'est embaucher.
C'est sûr. Bon, Twitter. Et bien, justement, puisqu'on parle de Twitter, on va finir avec Twitter. On parlait d'un deal entre le board et Jack Dorsey qui a été conclu il y a une ou deux semaines pour que Jack Dorsey reste à la tête du réseau. Et bien, d'après ce qu'on entend, le deal risque d'être compliqué. Parce que compliqué à tenir, parce qu'il faut que Dorsey monte fasse une croissance de 20% en 2020 du nombre d'utilisateurs quotidiens qui peuvent voir des publicités. Donc, il y a d'autres domaines comme la croissance du revenu en même temps, d'autres choses, mais 20%. En 2020, bon, surtout dans le contexte du virus, mais encore que Twitter n'en souffre pas forcément, au contraire.
Oui.
Peut-être qu'ils sont plus... C'est l'une des boîtes qui en bénéficie. Mais 20% de croissance, alors que Twitter a dû avoir entre 0 et 0,5% de croissance d'utilisateurs quotidiens depuis les 5 dernières années, ça paraît difficile à réussir, quoi. Et si ça réussit pas, a priori, il doit quitter sa place, Jack Dorsey.
Oui, là, je pense, c'est même étrange qu'ils se soient mis d'accord sur un tel objectif. Tellement ça paraît une porte de sortie évidente.
Ouais. Ça paraît, peut-être qu'il n'avait pas le choix. Peut-être que l'activisme des membres, enfin des actionnaires, faisait que les membres du board étaient prêts à le mettre dehors et qu'il a dit bon, ok, je vais essayer, mais bon, 20%, peu probable. Et d'ailleurs, si jamais ça n'est pas atteint et que Dorsey est sorti, peut-être que ça ne sera pas une mauvaise chose pour Twitter. Parce que, comme on le disait la dernière fois, il n'est pas hyper actif, je trouve, l'ami Jack.
Oui, c'est compliqué de savoir l'impact d'un CEO à cette échelle-là. Enfin, on n'est pas dans les petits papiers, quoi.
Non, et puis ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que Dorsey, c'est l'un des fondateurs. Et c'est un petit peu l'image du CEO fondateur. C'est le spectre de Steve Jobs sur la Silicon Valley. Et en général, les gens qui ont conçu le produit à la base, est-ce que ce sont les meilleures personnes pour le gérer sur le long terme quand le truc grandit? Est-ce que c'est eux qui connaissent le cœur et l'essence du produit et qui donc ils vont pouvoir le mener vers ce qu'il peut être de meilleur? Ou alors est-ce qu'il faut des adultes qui viennent prendre les choses en main quand tout devient sérieux? Ou est-ce que ces adultes ne vont justement rien comprendre et penser que à l'aspect financier et donc prendre des mauvaises décisions comme on l'a vu avec Yahoo au hasard qui a d'une part qui s'est enterré lui eux-mêmes et qui a enterré de nombreuses sociétés qu'ils avaient acquis à côté. Enfin, c'est compliqué, on ne peut jamais savoir. Mais... Ouais.
Mais par contre, j'ai été mauvaise langue. En fait, ils ont déjà dépassé 20% de croissance des utilisateurs actifs en 2019. Hein.
20, c'est vrai, ils ont plus parce que le nombre d'utilisateurs total ne croît pas. Mais peut-être que les utilisateurs qui deviennent plus actifs sur la plateforme.
Ouais, c'est parce que là, c'est ce que dit l'article. Je vérifiais parce que j'avais un doute dans ma mémoire. Et en effet, c'est pas impossible. En 2019, ils ont dépassé ce seuil-là.
Donc, on parle d'utilisateurs actifs qui voient des pubs. Donc, effectivement, oui. De revenus pour la société. À vrai dire, on en parlait également il y a une ou deux semaines. l'aspect stories, à mon avis, augmenterait l'utilisation du réseau. Ensuite, est-ce que ça serait bien pour le réseau ou pas ? Moi, je pense que oui, mais ça serait à discuter. Mais ça augmenterait l'engagement, l'engagement des utilisateurs de manière significative. Donc, peut-être que rien que ça, ça pourrait donner une bonne partie des 20% aussi. Donc,
Ah, écoute, si Instagram a réussi à convaincre Patrick Béja de faire des stories, alors là, si Twitter s'y met, Patrick Béja va revenir sur Twitter en force.
Écoute, je suis énormément sur Twitter de toute façon, vous le savez. D'ailleurs, j'ai fait une story sur Instagram expliquant ce que j'expliquais au début sur l'aplatissement de la courbe et je l'ai converti sur Twitter. Ça marche super bien. C'est tout à fait compatible. Donc, si les deux font les stories, moi, je suis super content. Mais en attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Il y a du contenu sympa, comme par exemple mon fils qui a son écharpe avec la panthère dans le fond. La dernière photo que j'ai postée, elle est magnifique et je vous laisse la découvrir. La panthère menaçante dans le fond, un petit peu flou pour l'effet bokeh artistique, de qualité. Moi, je vous dis
mais elles sont très sympas tes stories. C'est un bon mélange professionnel personnel.
Ah merci, j'apprécie. Venant de toi, qui est une personne de goût, c'est forcément un beau compliment.
Oh là, je sais pas. En termes de réseaux sociaux, je sais pas.
Bon, bah, en tout cas, justement, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que pour parler de réseaux sociaux, tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ?
Bien sûr, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Twitter, justement, au pseudo Aizea Design ou sur la chaîne YouTube Naotech TV.
Magnifique, le lien vers ton Twitter sera dans les notes de l'émission, comme le lien vers mon Twitter, mon Instagram et puis aussi le Facebook. Mais allez voir du côté d'Instagram, il y a des trucs sympathiques, je pense que ça pourrait vous plaire. Et il y a également le Patreon sur patreon.com/rdvtech. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Et puis, comme on le disait, c'est le moment. Faites un truc sympa. Un truc sympa, c'est de devenir patriote et vous pourrez bénéficier du contenu bonus qui est disponible sur le Patreon. Et si vous donnez à ce niveau, il y a l'accès au Slack qui pourrait bien vous divertir également, voire vous faire procrastiner un petit peu pendant le confinement. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça prend 2 secondes et ça aide énormément, évidemment. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous donne rendez-vous dans une semaine. Dieu sait comment ça se passera à ce moment, mais nous, en tout cas, on sera là pour vous faire passer de bons moments. Ciao à tous. Ah tiens, je viens de voir un petit SMS de ma femme qui me dit « Estonia rules ». De quoi s'agit-il ? L'Estonie propose de donner son outil d'éducation numérique. Ils sont hyper en avance sur tout ce qui est numérique, en fait, en Estonie. Ils le donnent gratuitement pour aider les autres pays, pour faciliter l'éducation à distance. C'est pas mal, ça.
Chapeau, hein, franchement.
Ouais. L'Estonie est très, très... Oui, comme je le disais, ils ont énormément de systèmes qui sont en ligne. On en parlera peut-être un jour, mais c'est très, très avancé chez eux. Et du coup, je suis curieux de voir si d'autres vont l'adopter, parce que s'ils ont un système qui fonctionne, Dieu sait qu'il y a beaucoup de profs et de lycées et de collèges qui se grattent la tête en se demandant comment ils vont pouvoir faire les choses. Ça, si c'est un système tout fait qui peut être converti facilement, ça pourrait être pas mal.
Ouais. T'as déjà fait un numéro spécial Phileas Club sur l'Estonie et l'éducation ?
Sur l'Estonie, oui. Pas sur l'éducation spécifiquement, mais sur l'Estonie, tout à fait.
Il faut que je le retrouve.
Ouais, pour ceux que ça intéresse. Alors, attendez, je vais... frenchspin.com. Alors, Phileas, c'est Phileas, comme Phileas Fogg. C'est une émission que je fais en anglais, pour ceux qui ne la connaissent pas, où on parle avec des gens de tous les pays du monde, enfin de plein de pays, et on parle de l'actualité, de voir comment ils perçoivent l'actualité vue de leur pays, avec leur culture, leur background. Et en l'occurrence, alors je vais voir si je retrouve l'épisode avec l'Estonie. Non, je ne vais pas le retrouver. Je ne sais plus où il est, mais il est quelque part. Et je viens de faire un épisode là, il y a aujourd'hui, ce matin, où j'ai parlé de la pandémie et de la manière dont les différentes populations en Corée du Sud, en Italie, en France, en Finlande et aux US, en fait, les étapes à travers lesquelles sont passées les populations. On parle évidemment plutôt de la Corée du Sud et de l'Italie, les étapes presque psychologiques un petit peu par lesquelles sont passés ces différents pays. Et il y a des choses très intéressantes et on voit qu'on est peut-être dans le domaine, dans le même parcours. Donc ça peut...
Ah, je pense que oui, c'est ce qu'on aurait dû nous faire comprendre bien avant.
Je veux dire, psychologiquement, on est nous aussi à... On suit les mêmes étapes. Genre, au début, on se dit « Ah, mais c'est pas possible. Non, c'est une rigolade, c'est une blague. » Et puis, ouais. Tu sais, c'est presque les cinq étapes ou les quatre étapes du deuil, tu sais.
Oui, exactement, ouais. Avoir l'accent à l'acceptation, etc.
Ouais, ouais, l'énervement, l'acceptation, etc. Et c'est pour ça aussi que je me dis, les gens qui ne comprenaient pas ce week-end, c'est des gens qui faisaient certaines choses ce week-end, c'est des gens qui n'avaient pas compris ou qui étaient à une étape différente. Et... Bref, The Phileas Club, je ne retrouve pas le truc sur les Sony, donc du coup, mais je sais que c'est Nicolas avec qui je l'avais fait, un ami français qui est en Estonie, et je ne me souviens plus de l'épisode, et je suis sûr qu'on avait fait... peut-être que c'était la vie On n'avait pas fait un spécial sur les Sony. On avait fait, il était militaire dans la marine et on avait fait un épisode spécial avec lui sur sa vie dans la marine française.
Life in the French Navy.
Exactement, c'est l'épisode 104. Mais il était
tout
venu nous parler de l'Estonie, mais pas dans un épisode spécial, juste comme intervenant. Intervenant normal dans d'autres épisodes, je crois. Mais maintenant, je suis plus sûr.
Donc, il faut que tu en fasses un dédié. Hein.
Écoute, le programme est pris. Nicolas, si tu écoutes encore le Rendez-vous Tech, on se recontacte et on fera ça à un moment. Ça serait une bonne idée. Bon, allez, on va se coucher. Et j'ajoute un tout dernier petit truc. Je me suis réveillé ce matin avant que l'on ne fasse le montage avec Fanny. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc assez cool qui se passait aux États-Unis au niveau des cinémas. C'est-à-dire que certaines sociétés vont mettre des films actuellement au cinéma, puisque tous les cinémas ferment, en location sur Internet. Et ça, c'est super cool. Et on se dit, ouais, génial, on va pouvoir voir les films. Non, évidemment, en France... disons que normalement c'est pas possible à cause de la chronologie des médias. J'espère que le gouvernement va s'attaquer aux choses véritablement importantes et faire une loi d'urgence pour que les films qui devraient être au cinéma puissent être diffusés immédiatement sur les services en ligne divers qui nous sont proposés. Donc voilà, quelque chose de vraiment important pour laquelle la tech peut vraiment aider à garder l'activité et le bonheur du cinéma présent partout chez nous. Bon, je plaisante et je sais que ça ne va pas se passer parce que ça provoquerait des problèmes dans la chronologie des médias justement, mais ça serait quand même cool. Ce n'est pas la première priorité, mais disons que ça serait plutôt pas mal. Puis un autre truc qui est en train de se passer visiblement en un petit peu moins cool et un petit peu moins techie, mais j'en parle quand même, il y a en Allemagne... une équipe de Big Brother, je ne sais même plus comment s'appelle l'émission de télé-réalité en français, mais le Loft, enfin à l'époque ça devait être ça, mais en tout cas ils sont enfermés dans leur studio, leur appartement, leur maison, et ils ne savent pas qu'il y a la pandémie, et la production veut leur annoncer, leur dire en live à la télé. Et vraiment j'espère qu'ils ne vont pas faire ça parce que j'ai jamais été très fan de télé-réalité, à part Terrace House sur Netflix, qui est absolument merveilleux et super gentil et mignon. D'ailleurs, si vous voulez des recommandations de trucs à regarder, c'est peut-être le moment de vous mettre à Terrace House. Si vous voulez de la télé-réalité qui, là, pour le coup, est vraiment cool et sympa et en plus vous fait voyager au Japon, et d'autres trucs qu'on recommande dans Positron, évidemment, vous pouvez trouver ça dans votre app de podcast. Mais pour ce qui est de Big Brother en Allemagne, là, on n'est même plus à une question de voyeurisme, c'est une question, ça devient du sadisme, je trouve, de leur montrer, de leur annoncer ça en live à la télé. C'est hyper traumatisant, ils vont pas y croire, bref, Donc voilà, encore des conséquences. Bon, celle-là, elle est un petit peu moins tech que l'histoire des films qu'on diffuse sur les services en ligne, mais ça serait cool que ça soit possible en France aussi. Bon, évidemment, les films seront un petit peu plus chers que les locations habituelles, ça sera genre une vingtaine de dollars d'après ce qu'ils veulent faire. Mais bon, tous les films qui sont décalés, mais ceux-là pourraient être mis à disposition de cette manière, ça serait cool. Allez, cette fois, c'est vraiment fini et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Restez chez vous, soyez courageux, tout va bien se passer. Et comme je l'ai vu sur Internet, nos grands-parents ont été appelés à la guerre. Nous, on est appelés à rester sur nos canapés. On devrait pouvoir s'en sortir pour la plupart d'entre nous. Ça ne devrait pas être trop traumatisant. Bon courage, on est tous ensemble. Je vous envoie de grosses bises et on se parle une nouvelle fois dans une semaine. Ciao à tous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.